crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye. Bonjour et bienvenue dans votre série de l'été. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Nous allons nous plonger ensemble dans de grandes affaires criminelles françaises, du 19e et du 20e siècle. Je vous emmène à Paris, au 36 Quai des Orfèvres. Je vous emmène à Paris et dans la France entière. Certaines d'entre elles sont des affaires célèbres. Toutes ont défrayé la chronique et portent leur part d'une histoire plus vaste. Bien plus qu'un crime, bien plus qu'un criminel, c'est la société, l'histoire des hommes et des femmes dans leur époque qu'elle raconte. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir un nouveau dossier criminel. Il s'agit d'une enquête peu ordinaire qui va nous emmener à Paris, à Lyon, à Londres et au-delà, à New York et à Cuba. Une enquête menée par les limiers du 36 Quai des Orfèvres il y a plus d'un siècle, en 1889. Nous sommes dans la France de la Troisième République. La France se relève de l'humiliation de Sedan, de sa défaite contre l'armée prussienne. Nous sommes au mois de juillet 1889. On a inauguré quelques mois plus tôt l'Exposition universelle de Paris. La France veut présenter au monde l'image de sa fierté retrouvée, de sa prospérité, l'image d'une nation tournée vers le progrès. La Tour Eiffel se dresse, fière, au milieu de Paris, sur le Champ de Mars. On l'a pas mal critiqué, l'ouvrage de Gustave Eiffel. Ouais, la presse s'en est donnée à cœur joie pour se scandaliser de voir ériger un tel monstre au milieu de Paris. Mais la voilà, et Paris est fier. La France n'est pas sereine pour autant. Il y a ceux qui ne veulent pas de la République. Il y a les monarchistes. Il y a les bonapartistes. Et voilà qu'un certain général Boulanger, celui qu'on appelle familièrement le général Revanche, se fait menaçant. Est-ce qu'il n'est pas sur le point de prendre le pouvoir par les armes? C'est le héros des nationalistes, de ceux qui veulent faire rendre gorge à l'Allemagne et qui sont prêts à tout pour y parvenir. Ceux qui veulent en découdre. Mais Boulanger, sur le point d'être arrêté, a fui. Où ça? À Bruxelles, où il va retrouver sa maîtresse. Là où il va se suicider quelques mois plus tard. Elle meurt et il se suicide. Au cimetière d'Ixelles, sur sa tombe. Mais revenons à notre histoire, moins romantique. Elle commence à Paris, rive droite, à deux pas du Palais Royal, au numéro 1 de la place de Valois. Et qu'est-ce qu'il y a à cette adresse? Eh bien, c'est là que les huissiers parisiens tiennent leur réunion. C'est la chambre des huissiers, comme on dit. Ah, c'est du sérieux, bien sûr. C'est là qu'on règle les petits problèmes de la profession et qu'on examine les plaintes qui sont adressées contre certains membres de cette belle confrérie. Mais pas seulement. Les huissiers savent prendre du bon temps aussi. Et aujourd'hui, le 9 août 1889, c'est le jour de leur banquet annuel. Non, ce ne sont pas des gens tristes, les huissiers. Ils peuvent être drôles. En tout cas, quand ils sont entre eux. Ils doivent être une bonne cinquantaine dans leur complet noir. Ils ont chaud. On est au début du mois d'août. Ils se saluent, ils se congratulent. Le président se lève. Il va porter un toast à la prospérité de la profession. Mais on dirait qu'il manque quelqu'un. Tous les habitués ne sont pas là. Gouffet. Il est où, Augustin Gouffet? Il est toujours de la partie, pourtant. Il se fait bien excuser pour certaines réunions ordinaires, c'est sûr, mais le banquet, Gouffet devrait être parmi eux. Alors, tout doucement, on finit par en parler de l'absent de ce soir. Il est en pleine saisie, ose un des convives, sur un ton, disons, quelque peu polisson. « Je n'osais pas le dire, il saisit des jupons !» renchérit un voisin de table. Quelques rires fusent, un peu grossiers, et un peu retenus pour le semblant de dignité qu'il faut conserver tout de même. Enfin, Gouffé les mérite bien un petit peu, non, ces bons mots qui se perdent. Ah, il en pince pour le beau sexe, notre huissier. Cela se sait que c'est un homme d'aventure, que voulez-vous. Il est veuf aussi, veuf avec deux filles à marier. Il a sans doute bien des raisons de se changer les idées. De demi-mots en plaisanterie un peu légère, les esprits glissent vers autre chose. Est-ce qu'ils ont l'alcool triste dans la confrérie des huissiers? En voilà un qui vient assombrir l'atmosphère festive de cette soirée. Il se met à parler de cette fois où il a été menacé par un hachoir à viande chez un boucher charcutier qu'il venait saisir, pas loin d'ici, rue du Faubourg Saint-Antoine. En voilà un autre qui raconte ce qu'on lui a rapporté de province. Un confrère de Vernon a fui à travers champs, poursuivi par un bonhomme armé d'une fourche. Et puis il y a ce qu'ils ont tous lu, ce feuilleton, que livrent les journaux de Lyon, repris dans les journaux de Paris. Un cadavre transporté dans une malle et retrouvé dans la campagne lyonnaise à Millery, il y a quelques jours. Un cadavre. Un cadavre qu'on ne parvient pas à identifier. Ça pourrait bien être un huissier, non ? Ose l'un d'eux avec malice. Il rit. Il s'épanche encore, nos huissiers. Puis la soirée se termine. Un cognac pour les uns, un armagnac pour les autres, et un cigare. Le président a toujours quelques cigares qu'il réserve pour les amateurs. Le banquet prend fin. Rater le banquet annuel. Mais qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête, à gouffer ? Tout cela en serait resté là si notre huissier gouffé avait accompli les devoirs de son office. Mais voilà que le président de la Chambre des huissiers reçoit une communication de saisie qui reste inexécutée. Alors vous vous dites probablement, un huissier qui disparaît, oh, ça peut rendre quelques personnes heureuses. Et que les huissiers qui nous écoutent ou leurs proches m'excusent. C'est sans doute un peu convenu, oui. Oui, mais bon, cette belle confrérie finit tout de même par s'inquiéter. Quittons la place de Valois pour le 36 quai des Orfèvres. Nous voici dans le bureau du commissaire Goron, François-Marie Goron. C'est un bureau sans âme, avec des meubles en bois bon marché, ceux qu'on trouve dans toutes les administrations, grossiers mais solides, et une carte de Paris. Ce qui égaye la pièce, c'est la fenêtre. Une belle croisée qui donne sur le quai, sur la Seine. Goron est assis à son bureau. À ses côtés, debout, il y a l'inspecteur principal Jaume. Voilà plus de 10 jours que l'huissier Gouffé n'a plus donné de nouvelles. Et que l'inquiétude s'est changée en préoccupation. Désormais, cette préoccupation est devenue une enquête. Celle de la sûreté. Celle des hommes du 36. Sur une chaise se tient un homme. Il n'est pas à son aise. Ça ne met pas à l'aise d'être là, dans les bureaux de la sûreté. À force, n'importe quel honnête homme pourrait avouer quelque chose. On ne sait pas quoi, mais avouer quelque chose. Cet homme, c'est Landry. C'est le beau-frère de l'huissier Gouffé. Pourquoi il est mal à l'aise ? Le 8 août, la veille de ce fameux banquet, on l'a vu passer à l'étude. Les clercs l'ont vu. Il a annoncé que maître Gouffé était souffrant et qu'il lui avait demandé de passer prendre quelques papiers. Et personne ne lui en avait demandé davantage. Landry était un homme respectable et le beau-frère du patron. Pourquoi aurait-il fallu se méfier ? Et qu'est-ce qu'il avait emporté ? Eh bien, des lettres qui auraient pu, porter atteinte à l'honneur des demoiselles Gouffé, de mes nièces, monsieur le commissaire. Il est pâle, Landry. Il transpire. Des gouttes de sueur roulent le long de ses tempes. Il n'emmène pas large. C'est peut-être une âme sensible, le beau-frère. Le commissaire Goron se tourne vers Jaume. Eh bien, Jaume, puisque monsieur Landry a l'air de vouloir nous appuyer dans nos investigations, il ne s'opposera pas à ce que vous le raccompagniez chez lui, n'est-ce pas ? Et il vous remettra ses lettres, hein ? Goron roule les pointes de sa moustache. L'une, puis l'autre. Doucement, entre le pouce et l'index. Et il ajoute, à destination du beau-frère,
Ce sera la meilleure façon de nous montrer vos bonnes dispositions, non? Et de nous éviter de vous faire mettre sous mandat d'arrêt.
Jaume, accompagné de Landry, quitte le 36. Il monte dans un fiacre, direction le 19e arrondissement. Montmartre, au pied de la butte, rue Custine. Landry se tait. Son embarras ne fait que croître. Pourquoi est-il si perturbé? Est-ce qu'il y a plus que les lettres? Ils arrivent. Ils montent au premier étage. C'est un appartement cossu. Un bel intérieur bourgeois. Landry précède l'inspecteur. Il a l'air d'hésiter. Et voilà qu'il se retourne, brusquement.
Monsieur l'inspecteur, les lettres.
Je me serais dit.
Quoi, à la fin? Quoi, les lettres?
Landry finit par lâcher.
Je ne les ai plus, voilà.
Il lui désigne l'âtre.
Je les ai brûlées.
Jaume reste sans voix. Il n'en revient pas. Mais dit-il toute la vérité, Landry? Qu'y avait-il donc dans ces lettres?
Des choses qui pouvaient compromettre l'honneur de mes nièces, monsieur l'inspecteur, rien de plus.
Est-ce qu'il faut le croire? Jaume saisit un tisonnier. Il s'accroupit devant l'âtre. Il retourne les cendres, doucement, méticuleusement. Un morceau de papier blanc roussi apparaît. Un autre. Il met au jour les quelques restes des lettres brûlées. Quelques fragments. Oh, peu de choses, hein. Il y a quand même, ici et là, quelques traces d'écriture à l'encre noire. Il peut saisir quelques mots. Un surtout. Un prénom d'une femme. Gabrielle. Il se relève. Il lève les yeux vers Landry. Gabrielle. Landry paraît plus pâle encore. Il secoue la tête et murmure un, je ne sais pas, imperceptible. Est-ce que Landry est pour quelque chose dans la disparition de son beau-frère? Et cette Gabrielle, l'une des conquêtes d'Augustin Gouffet? Peut-être. Enfin, pour l'instant, c'est assez pour garder Landry au frais, le temps de comprendre ce qu'il vient faire là-dedans. Les jours passent et le dossier Gouffet piétine. Landry a beau prétendre vouloir appuyer les recherches, il n'apporte rien du tout. Enfin, c'est un dossier parmi d'autres, le dossier Gouffet. Une disparition, rien de plus pour l'instant. Goron reste convaincu que l'huissier s'est laissé entraîner dans une affaire de cœur et qu'il va réapparaître d'un jour à l'autre.
« Vous allez voir, Jaume, il va nous revenir au bras d'une cocotte. Elle l'aura emmené en province, quelque part où les journaux ne lui parviennent pas, c'est tout. Allez, ça fait quoi? Trois semaines ?»
Jaume est plus perplexe, moins optimiste. « 3 semaines, commissaire. 3 semaines, c'est assez pour nous laisser un cadavre, non ?»
La première. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres, je vous parle d'un dossier de la fin du 19e siècle. Je vous emmène en 1889. Un huissier parisien du nom d'Augustin Gouffet a disparu sans laisser de traces. Le commissaire Goron et l'inspecteur Jaume du 36 mènent l'enquête. Le beau-frère de l'huissier a quelque chose à se reprocher. Il a brûlé des lettres peut-être compromettantes, sur lesquelles on ne peut plus lire qu'un prénom, Gabriel. Et à part ça, il n'y a rien, et on ne retrouve pas Gouffet. Mais voilà que, ce matin du 26 août 1889, Jaume frappe à la porte du commissaire Goron. Il le salue et lui tend le journal, Le Petit Parisien. « Vous devriez lire ça, commissaire. » C'est en première page. Goron lit le titre. Le mystérieux cadavre de Millery. Le Petit Parisien s'étend sur l'enquête de l'inspecteur Bérard, de la police de Lyon. Bérard enquête sur ce mystérieux cadavre et cette mystérieuse malle retrouvée dans la campagne lyonnaise il y a plusieurs semaines. Et qu'est-ce qu'il en dit, ce Bérard? Goron sourit. Un sourire plein de condescendance.
Notre collègue de Lyon conclut que son cadavre pourrait bien être l'huissier gouffé. C'est amusant, ça, Jaume. On a de l'imagination à la Sûreté lyonnaise, hein ?
Il se met à lire, mi-amusé, mi-agacé. Les résultats de l'autopsie ont permis de conclure qu'il ne s'agit pas d'un travailleur manuel. Les mains et les ongles sont ceux d'un homme qui pratique une activité intellectuelle. Goron cherche les perles pour s'en délecter. Il s'arrête, lève les sourcils et rend le journal à l'inspecteur.
« Merci, Jaume. Tout cela est bien séduisant. Il ne manque pas d'esprit, notre collègue Bérard. Mais allons bon. Pourquoi voulez-vous qu'un assassin aille déposer le corps d'un huissier de Paris si loin ? Millery, c'est à Lyon, hein ? À Lyon ! »
Il a sans doute raison, le commissaire. Lyon, c'est à plus de 8 heures de Paris par le train. Pourquoi entreprendre un tel voyage ? Mais quand même, Jaume se jette à l'eau.
Et si justement, il l'avait transporté jusque-là pour nous convaincre que ce n'est pas notre huissier ?
Goron lève les yeux au ciel. « Mais vous pensez que tous les assassins ont un cerveau aussi tordu que le vôtre, Jaume ?»
Le commissaire Goron s'imagine sans doute que ça en restera là. Il se dit « C'est un collègue qui veut se faire remarquer par sa hiérarchie. »
Bientôt, on n'en entendra plus parler. Il est plein de certitude, Goron. Surtout quand il s'agit d'apprécier les mérites de ses collègues de province. Peut-être qu'il devrait revoir son jugement.
Ça en reste là, jusqu'à ce jour de novembre. Le genre de jour qui ne vous donne pas envie de vous lever et où on sent la pluie jusque dans son lit. Nous sommes dans les bureaux de la Sûreté, au 36. Deux hommes attendent dans le couloir. Ils portent un colis volumineux. Tellement volumineux qu'il empêche le passage. Et mouillé avec ça. Ça énerve Goron.
Mais qu'est-ce que vous fichez avec ça dans mon couloir, messieurs ?
Les deux porteurs s'excusent. L'un d'entre eux sort une enveloppe de sa poche et jette un coup d'œil à l'adresse.
« Pour monsieur François-Marie Goron, monsieur, le chef de la Sûreté, quai des Orfèvres, à Paris. »
Goron sourcille. Les cachets, ça vient de Lyon. « Qu'est-ce que c'est ? Ça a la taille, la forme de... » Le commissaire retient son souffle. « Ils l'ont quand même pas fait ça. » Il fait un pas en arrière. « C'est ça. »
« Mais bien sûr que c'est ça.
La malle. La malle de Millery, dans laquelle... Le cadavre a été transporté. Le commissaire ouvre la lettre. C'est encore Bérard. Décidément, ça lui fait tourner la tête. Ça ne lui suffit pas d'avoir eu les honneurs de la presse. Il se tourne aussitôt vers l'autre bout du couloir.
Jaume, il y a un petit colis pour vous.
Jaume passe la tête dans l'encadrement de la porte. Mais pourquoi il hurle comme ça, le patron ? Qu'est-ce qu'il a ?
Jaume, vous avez manifesté votre intérêt pour le cadavre de Millery, non ?
Jaume prend connaissance de la lettre. Et il quitte le 36, quelques minutes plus tard. Il se rend dans les bureaux de la compagnie du Paris-Lyon-Marseille, avec les deux porteurs et la malle. Il est reçu par un préposé qui ouvre un registre et en parcourt les pages consciencieusement, ligne après ligne.
Le 28 juillet, oui, j'ai une malle pour Lyon. Parti par le train 3, le poids 105 kilos.
Le préposé prend un air surpris.
105 kilos quand même. Ça ne devait pas être du linge, ça, hein ?
Non, pas du linge, non. Mais peut-être le corps d'un homme bien nourri. D'une certaine stature, d'une certaine corpulence. Jaume relit la lettre de Bérard. L'examen du corps de l'inconnu de Millery a permis de déterminer son poids. 80 kilos. Quant à la malle, elle pèse 25 kilos. Jaume est ébranlé. Ça va faire mal au patron, mais il va peut-être devoir l'admettre. Bérard a peut-être raison. Et si le cadavre de Millery, et si ce corps était celui de l'huissier gouffé ?
De retour au 36... Jaume retrouve Goron. Il est nerveux, le commissaire.
Cette pression des collègues de Lyon qui viennent le narguer jusqu'à Paris, ça le met hors de lui. Il bouillonne.
Bon Dieu de merde, Jaume ! Mais allez-y à Lyon !
Jaume se fait tout petit. Dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas s'attarder. Il dit un « Merci, au revoir patron », discret, et il se retire. Il ne la ramène pas.
mais il sait ce qu'il lui reste à faire. Il donne ses instructions. Il faut porter la malle à la morgue, qu'elle soit exposée comme les cadavres, qu'on la présente au public. On ne sait jamais, non? Si la malle est partie de Paris, peut-être qu'elle dira quelque chose à quelqu'un. On ne parle que de ça, désormais. Toute la presse en parle. Alors ils vont venir la voir, cette fameuse malle, les Parisiens et tous les curieux. Toutes celles et tous ceux qui sont avides de sensations. Jaume doit repasser chez lui pour préparer une valise. Oh, de quoi passer une ou deux nuits à Lyon, pas plus. Mais avant ça, une dernière chose. Il a fait prendre ses renseignements auprès des filles Gouffet. Augustin Gouffet avait ses habitudes chez un chapelier de la rue Saint-Vincent à Montmartre. Goron l'interpelle encore.
« Mais qu'est-ce que vous allez foutre chez son chapelier maintenant, Jaume ?»
Et lui jette encore avant qu'il ne disparaisse.
« Et si vous vous sentez bien avec les collègues de Lyon, eh bien restez-y »
Mi-novembre 1889. Le train arrive en gare de Lyon-Perrache. Jaume descend. Il y a de quoi se réjouir. Au moins ici, il ne pleut pas. On dirait même qu'il fait beau. Il y a un comité d'accueil. Inspecteur Jaume ? C'est Bérard et un inspecteur. Oh, il n'a pas l'air bien méchant, Bérard. Il a même l'air aimable. Il lui demande s'il a fait bon voyage. Il prend des nouvelles de Paris. Il a quelques mots sur l'exposition universelle. Il lui vante un peu Lyon, mais pas trop. Jaume est étonné. Il n'a pas l'air de trop en remettre, Bérard. Mais Jaume reste sur ses gardes. Les collègues de la Sûreté de Lyon les connaît. Ils sont fiers d'eux, hein, à ce qu'on dit. Enfin, on les connaît. On croit les connaître, comme toujours. Bérard lui désigne un fiacre. Il monte. Direction la morgue. La morgue de Lyon. Au bord du quai, le long du Rhône, le fiacre s'immobilise, près d'un pont. Le pont de la Guillotière. Il fait froid. De la brume s'accroche sur les quais, le long du fleuve. Le soleil est là, derrière un voile sombre, on le devine. Mais ce n'est pas son heure. On dirait qu'il n'a pas la force. Ils descendent du fiacre. Jaume se demande où ils l'ont emmené. Bérard s'excuse. Il a l'air sincère. « Notre morgue. Ce n'est pas la morgue de Paris. Je suis désolé, inspecteur. » Amarré le long du quai, il y a une sorte de péniche. Il monte. L'installation est sommaire, oui. On vient d'apporter le corps. Enfin, ce qu'il en reste. Ils l'ont exhumé le matin. Ce sont les restes d'un homme, mort depuis plus de 3 mois, dans un état de décomposition avancée. Ce n'est pas la première autopsie, c'est la seconde. Et cette fois, l'examen du corps est confié à une sommité de la faculté de Lyon, Alexandre Lacassagne. C'est sans doute le plus important médecin légiste en France à cette époque. Et il est lyonnais. Il n'est pas de très bonne humeur, il le fait comprendre d'emblée.
« Je pensais avoir demandé que le corps soit transporté à la faculté dans un endroit où la médecine légale est considérée. » « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans cette épave pleine de miasmes ?»
Il aurait bien rajouté quelques mots désagréables à l'endroit de celui qui a procédé à la première autopsie. Mais il s'abstient. Il va compléter les conclusions de son confrère, de manière, disons, spectaculaire, à la hauteur de l'homme de l'art, du spécialiste qu'il est. Les chairs sont dans un tel état, il n'y a plus moyen d'en tirer quoi que ce soit. La putréfaction est trop avancée. Alors quoi ? Le squelette. Le médecin légiste peut encore compter sur les os. Qu'est-ce qu'il peut en tirer ? Il parvient à calculer la taille du cadavre, la taille de l'homme qui est mort. Il prend son temps, la Cassagne. Et finalement...
1m78, inspecteur.
1m78. Est-ce que ce n'est pas la taille de Gouffet ? Celle qui a été signalée, celle qui est mentionnée sur son livret militaire. Mais ce n'est pas tout. Lacassagne se tourne vers Jaume, resté en arrière. Le nez, presque tout le visage plongé dans un mouchoir parfumé à l'eau de Cologne. L'odeur est insoutenable.
« Vous avez apporté ce que j'ai demandé ?»«
Oui, l'inspecteur là. il est allé le chercher chez le chapelier d'Augustin Gouffet, le conformateur crânien, comme on dit, qui permet au chapelier d'ajuster le chapeau au tour de crâne de son client. Jaume le tend au médecin légiste, qui l'approche du crâne, essaie de l'ajuster et cela s'ajuste parfaitement. Voilà quelque chose de plus, n'est-ce pas? Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est assez? Jaume opine, doucement. Il n'a plus rien à rajouter. Le cadavre de Millery, le cadavre de la Sûreté de Lyon, s'est gouffé. C'est certainement gouffé. L'huissier disparu, sur lequel la Sûreté parisienne mène des investigations depuis plus de 3 mois. Jaume se fait raccompagner à son hôtel. Et puis il s'offre un peu de délassement. Il va quand même en profiter un peu, non? Manger des quenelles ou un saucisson en croûte, il paraît qu'ils ont de sacrées bonnes cochonailles à Lyon. Il va pouvoir se promener un peu. Il fait froid, mais il fait sec. Le soleil brille, mais avant, il faut télégraphier à Paris et sans attendre. Seconde autopsie positive, stop. Gouffé, cadavre de Millery, stop.
La première. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Je vous parle de la disparition d'un huissier à Paris. L'enquête piétine jusqu'à ce qu'un cadavre et une malle retrouvés près de Lyon lui donnent un nouvel élan. Pour la police lyonnaise, c'est certain, le cadavre est celui de l'huissier disparu. Mais à Paris, on n'est pas très réceptif aux idées des collègues de province. Jusqu'à ce qu'une nouvelle autopsie confirme la piste de la Sûreté de Lyon. Nous sommes le 17 novembre 1889. Jaume est de retour à Paris, au 36. Il pleut, encore. La parenthèse ensoleillée à Lyon est déjà refermée. C'est une pluie froide, drue. Alors il se hâte. Il monte. Il va enlever son chapeau, son pardessus et se réchauffer contre le poêle. Ça lui fera du bien. Il a à peine le temps d'entrer dans son bureau qu'il entend la voix du commissaire Goron.
C'est vous, Jaume? Pas besoin de défaire votre valise, hein? Vous repartez!
Goron poursuit avec un sourire, en lissant sa moustache.
Mais cette fois, je viens avec vous. Nous partons pour Londres, inspecteur.
Londres, ça intéresse plus Goron. Il ne porte pas les collègues de Lyon dans son cœur. Par contre, rendre visite au fameux détective de Scotland Yard, ça c'est autre chose.
Scotland Yard?
S'étonne Jaume.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Goron roule les pointes de ses moustaches entre le pouce et l'index, l'une puis l'autre.
Nos journaux illustrés se vendent outre-manche, mon cher Joe, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Avec la presse, l'enquête passe plus vite les frontières que les enquêteurs.
Il tend une lettre à l'inspecteur.
Un couple de Français installés à Londres. Ils tiennent un petit hôtel. Ils ont logé un homme qui venait de Paris, un certain Michel Hérault. Il a été rejoint par une femme, une certaine Gabriel Bompard. Ils ont commandé une malle chez un maletier de Euston Road. La malle était tellement grande et large qu'elle passait à peine dans l'escalier.
Goron poursuit, mais Jaume ne l'écoute plus. Ça lui revient brusquement. Les cendres du feu, dans l'appartement du beau-frère, Landry, ces quelques fragments de lettres qu'il avait pu retrouver, et cette écriture à l'encre noire, Gabriel. Les éléments du dossier ne sont-ils pas en train de se nouer entre eux? Mais Landry, que vient-il faire là-dedans? On dirait que c'est à Londres que le mystère de Millery doit trouver sa solution. Et cette fois, Goron va joindre ses forces à celles de Jaume, mais il reste comme il est, Goron, fier, orgueilleux. Il n'aime pas l'admettre quand il a eu tort. Enfin, il esquisse un léger sourire pour Jaume alors que le train les emmène vers Calais, en passant un peu de crème sur la pointe de ses moustaches.
Un beau travail, mon cher Jaume. Beau travail, oui.
Pourtant, arrivé à Londres, nos deux limiers doivent déchanter. Goron avait fait avertir le superintendant Anderson de son arrivée. Il espérait. Il attendait, disons,
Une marque de courtoisie, un comité d'accueil à la gare, pourquoi pas, mais... Mais non, il n'y a rien. Mais ce n'est pas le plus important.
Michel Hérault et Gabriel Bompard sont introuvables. Ils ont quitté Londres au mois de juillet passé, quelques jours avant que l'huissier Gouffet disparaisse. Et ils ne sont plus réapparus depuis.
Goron et Jaume sentent bien qu'on n'a pas beaucoup de temps à leur consacrer.
Goron déchante. Lui qui paraissait si joyeux à l'idée de faire la connaissance des détectives de la Metropolitan Police. Mais Scotland Yard et le superintendant Anderson, ils ont d'autres chats à fouetter. Il y a Jack l'Éventreur qui fait parler de lui. Le tueur de Whitechapel qui hante tous les esprits.
Goron et Jaume repartent donc avec leur certitude, mais sans Hérault et sans Bompard.
Que peuvent-ils faire de plus à présent ? Le signalement a été transmis auprès des autres capitales européennes. Et outre-Atlantique, jusqu'à Washington. Avec l'hiver qui vient, le froid, le gel, peu à peu Paris s'engourdit. Et la presse aussi, on dirait. Les semaines passent et on pourrait les oublier, l'huissier Gouffet et la malle. Ils vont finir par se lasser, les hommes du 36. Ils ont beau, jour après jour, accomplir de nouveaux devoirs d'enquête, réinterroger Landry... Interroger l'entourage d'Hérault, l'entourage de Bompard, ils n'y sont plus vraiment. Ils le font parce qu'on ne leur a pas encore donné l'ordre de refermer le dossier. Et voilà que la fin du mois de décembre approche. Il neige. Paris est en blanc. Combien de temps est passé depuis la découverte du cadavre et de la malle ? Jaume entre dans le bureau de Goron.
« Ça fera bientôt 6 mois, commissaire !» fait l'inspecteur en secouant son pardessus pour en faire tomber la neige. « Vous permettez ?»
Jaume n'attend pas la réponse. Il s'approche du poêle, tend les mains pour se réchauffer. Goron lui tourne le dos. Il est devant la fenêtre. Il regarde Paris, figé dans la neige et le froid. Il a une voix d'outre-tombe, le commissaire. Jaume ne le reconnaît pas. Il a l'air mélancolique.
Paris est tellement beau en hiver, vous ne trouvez pas, Jaume ? C'est apaisant, cette neige.
L'année suivante aurait pu mal commencer. Goron n'est pas très en forme et Jaume n'a pas beaucoup de ressorts non plus.
Et puis il y a ce matin du 10 janvier 1890. Un beau matin froid, ensoleillé mais glacé. C'est dans le courrier. Une lettre avec de jolis timbres qui viennent de loin, qui viennent d'Amérique, on dirait, adressée au commissaire Goron de la Sûreté parisienne. Alors Goron ouvre, intrigué. Jaume est dans son bureau. Est-ce qu'il a un pressentiment ? Et si c'était des nouvelles de la police américaine ? Goron fait des yeux ronds. Il n'en revient pas.
Hérault, Michel Hérault est à New York, Jaume.
En tout cas, il y était lorsqu'il a posté la lettre. Mais pourquoi donc, écrit-il, au chef de la sûreté ?
Goron parcourt la lettre, rapidement. Il sourit, légèrement, et il roule la pointe de l'une de ses moustaches.
« Vous ne devinerez jamais, Jaume. Hérault nous écrit une longue lettre pour nous expliquer qu'il n'a rien à voir dans le crime terrible dont on l'accuse. Il se dit victime d'une femme qu'il aurait manipulée. »
Il lève les yeux vers Jaume pour le laisser deviner.
Gabriel Bompard, je suppose.
Gabriel Bompard, bien sûr. Alors c'est cela qu'il fallait attendre. Une dispute, une rupture. Et que l'un finisse par accabler l'autre.
Goron se dit que la solution pourrait peut-être venir de Michel Hérault et Gabriel Bompard eux-mêmes.
Il voit juste Goron. Mais par contre, il ne s'attendait pas à ce qui va suivre. Et vous non plus. Nous sommes 8 jours plus tard. Nous sommes le 19 janvier 1889. On frappe à la porte du commissaire.
Le préfet de police, monsieur le commissaire, il vous attend, c'est urgent.
Le préfet vient de recevoir une visite étonnante.
Ah, pour ça, oui. Cette visite est étonnante.
Il accueille Goron dans une certaine fébrilité.
Vous ne devinerez jamais, commissaire, une jeune femme s'est présentée chez moi. Et cette jeune femme...
Goron a compris. Il fait une moue, satisfaite. Gabrielle Bompard a, le plus simplement du monde, demandé à être reçue par le préfet de police de Paris. Et pourquoi ? Ça non plus, ça n'étonne pas Goron. Pour soutenir qu'elle n'est pour rien dans le crime dont on l'accuse. Enfin, pour rien. Non, pas tout à fait. Elle était bien présente au moment du crime, mais elle avait été contrainte de séduire Gouffet. Hérault l'avait menacée. Il l'avait menacée et elle l'avait regardée faire. Il l'a pendue à une poutre sous mes yeux. Elle fait front face aux interrogatoires du commissaire Goron et de l'inspecteur Jaume. Le plus simplement du monde, avec un aplomb, avec une candeur presque enfantine. Elle le répète. « Mais j'ai été hypnotisé, monsieur le commissaire !» Hypnotisé, oui, bon, évidemment. Elle a le loisir de livrer sa version, Gabrielle Bompard. Hérault n'est pas là pour se défendre. D'ailleurs, il est où, Hérault ? Après la lettre de New York, Goron a envoyé Jaume et des hommes du 36 outre-Atlantique. Ils suivent sa trace, bien sûr. Ils avancent pas à pas. Ils vont certainement découvrir où il se terre. C'est une question de jour. Mais Hérault est introuvable. Il s'est volatilisé. Jaume est forcé d'abandonner. Il regagne la France quelques semaines plus tard. On peut interroger Gabrielle Bompard, oui. On peut interroger Landry, encore, tiens. Mais on ne peut pas refermer ce dossier sans Michel Hérault. Ça non. Voilà que les nouvelles viennent au mois de février 1890. À une heure où les hommes du 36 dorment du sommeil du juste. Est-ce qu'on frappe à la porte ? On dirait bien, hein ? Alors Goron se lève, passe une robe de chambre, mais qu'est-ce que ça peut être ? Il est sur ses gardes, mais il ouvre. C'est la concierge, avec un agent de police. Un télégramme urgent du gouverneur de Cuba de la plus haute importance. Hérault arrêté à La Havane. Stop. Veuillez prendre disposition. Stop. Il va falloir faire ce qu'il faut pour le ramener. Mais ce genre de complications, de problèmes diplomatiques, ce n'est pas l'affaire du commissaire. Goron est content. Jaume aussi. Finalement, l'année ne commence pas si mal. Le commissaire et l'inspecteur se retrouvent au 36. Il est de bonne humeur, le commissaire, et ça se voit. Il vient même de proposer à Jaume de passer quelques jours chez lui, à la campagne, quand les beaux jours seront revenus. « Oh, nous pourrons pêcher le goujon, mon cher Jaume. Vous viendrez avec votre dame. » Il n'y a pas qu'au 36 qu'on est heureux de voir le dossier Gouffé se refermer. La corporation des huissiers veut célébrer l'événement. Plus que jamais, il convient de serrer les rangs, de faire corps. Et comme on aime festoyer chez les huissiers, on prévoit de célébrer l'arrestation d'Hérault par un banquet. Allez, au petit Véfour, tiens. Et on signe, après le dessert, une adresse de remerciement au gouverneur de Cuba. Au mois de mai 1890, Jaume revient de La Havane avec le prisonnier. L'arrivée de Michel Hérault à Paris provoque un mouvement de foule considérable. Une foule de curieux se rassemble sur le quai de la gare Saint-Lazare. La curiosité est à son comble. La presse a repris son feuilleton de plus belle. Et voilà que le musée Grévin consacre une de ses salles à l'affaire de la malle sanglante. Michel Hérault et Gabrielle Bompard sont renvoyés devant la cour d'assises de la Seine au mois de décembre 1890. Et Landry, le beau-frère ? Oh, juste un petit homme qui voulait bien faire pour couvrir les yeux chastes de ses nièces, qui avait brûlé toutes les lettres adressé à l'huissier Gouffé par ses conquêtes. Ses conquêtes, parmi lesquelles une certaine Gabrielle Bompard. Une conquête qui avait joué les appâts. Michel Hérault est condamné à mort. Quant à Gabrielle Bompard, elle est condamnée à 20 ans de travaux forcés. L'affaire de la malle sanglante de Millery vient de connaître son dernier acte.
La Momière. Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres. Jean-Louis Lahaye.
Jérôme de Breuer, bonjour.
Bonjour Jean-Louis.
Vous êtes professeur d'histoire du droit à l'ULB. Dans cette affaire, qui est une affaire difficile, une enquête et surtout une traque, on se rend compte qu'il y a surtout une guerre des polices.
Oui, une guerre de police, c'est une expression qu'on connaît bien aujourd'hui et qui est la manifestation de rivalité entre les services de police. Et ici, entre la police judiciaire, la sûreté parisienne et la sûreté lyonnaise. Et ce sentiment de supériorité de la police parisienne. Et pourtant, l'enquête de l'inspecteur Bérard est bien menée, efficacement menée. Et puis elle peut s'appuyer sur l'activité, la compétence d'un médecin légiste extrêmement réputé.
Le célèbre Lacassagne.
Oui, Alexandre Lacassagne, qui est l'une des figures essentielles, fondatrice de la criminologie et de l'anthropologie criminelle. Si vous voulez, c'est lui qui va mettre en doute la théorie de Lombroso, la théorie du criminel né, l'idée d'une hérédité criminelle. Il va émettre l'idée que le crime est aussi fonction de l'environnement social et pas seulement de l'hérédité. C'est tout à fait fondamental dans le contexte de l'époque. Et puis, il contribue au développement de la médecine légale et puis on peut le dire aussi, il contribue au développement de la police scientifique.
Merci Jérôme, merci pour tous ces éclaircissements et puis merci à vous et à très bientôt sur La Première.
La Première.
Un crime, une histoire, 36 Quai des Orfèvres.
Jean-Louis Lahaye.